Alors, nous poursuivons notre parcours sur Calvin et l'économie. Vous vous en souvenez, nous avons essayé de regarder quelle était l'attitude de Calvin vis-à-vis de la propriété, notamment donc vis-à-vis du capital avec le prêt à intérêt, mais vis-à-vis du capital aussi comme propriété. Et de ce point de vue-là, nous avons regardé la dernière fois comment Calvin comprenait le huitième commandement. Et tu ne voleras pas. Et ici, eh bien, on aura remarqué que Calvin passait en quelque sorte de la justice à la charité et ensuite redescendait de la charité vers la justice. Il y avait un mouvement en même temps ascendant et descendant. On y reviendra dans un instant, une sorte de dialectique entre la justice et l'amour. Et là où nous en étions restés, c'est un chapitre spécifique du commentaire du huitième commandement qui s'intitule « Dépendance politique du commandement ». Donc il s'agit bien d'une part d'avoir une interprétation religieuse du commandement et dans cette interprétation religieuse qui s'adresse aux chrétiens de voir comment en quelque sorte l'amour doit pouvoir critiquer leur comportement et la justice donner forme à leur amour. Mais ensuite, de voir quelles sont les conséquences, en quelque sorte, sociales du commandement. Alors, ici, la première chose qu'il faut noter, c'est que Calvin estime que même sur le plan politique, et ça ne vous étonnera pas avec ce que nous avons vu dans les cours précédents, le décalogue garde sa fonction entière. J'espère que vous avez gardé quelques-unes des citations que je vous donnais la dernière fois. Si ça n'était pas le cas, vous demanderez à Annie, si vous ne les aviez pas, qu'elle vous les donne. Mais je vais les lire sans autre. Au reste, dit Calvin, les législateurs païens ont emprunté ce que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël. Dracon avait été plus austère dans la ville d'Athènes, mais ses lois furent abolies par l'avis commun de tous. Solon, qui depuis succéda, fit la loi que les Romains ont suivie en leurs douze tables. Mais quiconque pèsera le tout prudemment trouvera que tant Solon que les députés de Rome ont tout empiré en se fourvoyant de la loi de Dieu. Donc vous voyez, il semble que Calvin estime que les grands législateurs antiques, à commencer par Solon qui est le grand législateur d'Athènes au 5e siècle avant notre ère, ont connu la loi de Moïse et se sont inspirés de la loi de Moïse pour lui donner une traduction civile. Nous savons que c'est parfaitement faux et que le monde antique, c'est d'une part Jérusalem, mais c'est aussi Athènes et qu'Athènes ne doit rien à Jérusalem sur ce plan-là. Mais Calvin estime, semble-t-il, encore une fois, que le décalogue a été connu, la loi de Moïse a été connue des grands législateurs de l'Antiquité. Donc, il faut ici noter que la perspective que l'on prend, même si c'est la loi de Dieu réinterprétée par le droit, est de comprendre quel est le dessein de la Providence, une Providence qui veut la vie des hommes et la vie de tous les hommes, indépendamment de la révélation, et qui veut faire en sorte que cette vie humaine puisse être proprement humaine. Or, ici, comme dans d'autres domaines, le dessein de la Providence pour Calvin est clair. Quand on ne peut plus acheter ni vendre, dit-il, la compagnie des hommes est comme dissipée. Autrement dit, l'économie fait partie d'une vie proprement humaine. Il faut pouvoir acheter, vendre, faire des contrats, tenir ses promesses aussi sur le plan économique, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, qu'on soit croyant ou pas croyant. L'économie a même une dimension fiduciaire, chacun pouvant faire confiance au poids, aux mesures, à la monnaie et à l'ensemble des règles du jeu commun. Dans cette économie en quelque sorte naturelle, voulue par Dieu, il y a donc bien une place pour la propriété et les contrats, mais ni la protection de la propriété, ni la protection des contrats n'ont de valeur absolue. Ils sont relatifs à leur finalité, et leur finalité, c'est précisément la communication des hommes entre eux, comme le dit Calvin. La propriété et les contrats sont donc positifs, pour autant qu'ils servent la fin pour laquelle ils ont été créés, nourrir les hommes en amitié et en paix. Comment Dieu assure-t-il alors la justice de l'économie? Eh bien, j'aurais envie de vous poser la question, parce que ce serait une excellente question d'examen pour ceux qui doivent passer des examens, évidemment, par la conscience. La conscience de chacun, ajournant, dit Calvin, la personne au siège judicial de Dieu, en promettant et en menaçant. La conscience devrait servir à garantir une vie proprement humaine, conforme au dessein de la loi naturelle et de la providence divine, mais il faut aussi un autre moyen. Quel est ce moyen? C'est précisément le politique. Le politique doit faire en sorte, c'est sa première mission, vous vous en souvenez quand nous avons essayé de regarder les textes de Calvin sur le politique, le politique doit avoir pour première mission d'être une figure de la providence. Il doit en quelque sorte prolonger ce que Dieu veut faire pour tous les hommes, au moins dans la version sympathique du politique chez Calvin, puisque vous vous souvenez qu'il y a en quelque sorte deux figures du politique chez Calvin. Alors je n'entrerai pas ici dans la soixantaine de pages in folio sur les différentes pénalités qui visent à circonscrire les modalités de l'attribution et de la rétribution, c'est-à-dire de la responsabilité des agents économiques. Je ne mentionnerai ici que le commentaire de Lévitique 24, 18 à 21, qui est l'occasion pour Calvin de souligner que le droit doit d'abord juger les faits et ensuite seulement pondérer la responsabilité par la prise en compte de l'intentionnalité, de la volonté, de l'affection de nuire et de la culpabilité. On est en plein dans la genèse du droit moderne qui va considérer que c'est dans l'intentionnalité que réside la peine et pas seulement dans l'acte lui-même. Autrement dit, ce que le juge doit chercher à faire, c'est à confondre en quelque sorte le criminel pour, sur la base de son aveu, lui donner une peine qui le réhabilite et le restitue en quelque sorte dans la société. Mais le rôle du politique n'est certainement pas, dit Calvin, de venger seulement. Et là, il y aurait toute une réflexion à faire assez intéressante sur les sources du droit et sur les sources de la peine. Quelle est la fonction de la peine dans le droit moderne? Il y a aussi dans ces pages, évidemment, toute une réflexion de Calvin sur la justice. Justice commutative d'abord, justice qui vérifie la parité des choses dans les échanges, mais qui va passer en quelque sorte de cette justice commutative sur le plan politique. Hein. Le politique doit veiller, par exemple, à ce qu'il n'y ait pas de refus de vente, à ce que vous soyez l'ami ou l'ennemi de celui qui achète ou qui vend, eh bien, vous soyez traité de la même manière, parce que dans les échanges économiques, ce n'est pas la qualité des personnes qui est en jeu, mais c'est la qualité des choses échangées. Ça, c'est une vieille problématique aristotélicienne qui est reprise ici. Mais Calvin essaye de montrer que l'on doit passer de la justice commutative à la justice distributive. Pour ce faire, encore une fois, il n'y a pas besoin de religion. Chacun doit reconnaître, dans un premier niveau, qu'il soit croyant ou non, que l'esclavage est tyrannie et que la loi juive ne commande rien d'autre que les philosophes païens n'aient enseigné mot à mot, dit Calvin. Donc, encore une fois, on prend le décalogue, mais au fond, on prend le décalogue comme loi naturelle. Il ne suffit donc pas de s'abstenir, d'asservir et de voler les pauvres pour être juste, même au plan politique. L'équité doit viser la mutualité et elle exige une certaine forme de justice distributive. Après avoir ainsi affirmé que l'humanité et la compassion font partie de la justice pour soulager les pauvres, Calvin poursuit, les écrivains profanes, bien vu le même, mais non pas si clairement, quand ils ont remontré que les hommes sont nés les uns pour les autres, et pour cette raison qu'ils doivent communiquer mutuellement ensemble pour maintenir la communauté du genre humain. Ainsi, afin de ne pas frauder nos prochains et ne pas être tenus pour larrons devant Dieu, apprenons, tant que la faculté de chacun le portera, d'être bienfaiteur de ceux qui en ont besoin. Fin de citation. La reconnaissance du droit de propriété et de la protection des contrats a ainsi pour limite l'humanité qui tempère une application trop stricte de la réciprocité. À propos du remboursement des dettes, Calvin va poursuivre la même idée. S'adressant aux créanciers, il les exhorte à faire preuve d'humanité, à ne pas être trop hâtifs et bouillants pour exiger les dettes, surtout, dit-il, quand nous aurons affaire à des gens disetteux qui sont accablés sous le fardeau de la pauvreté. Pourquoi ? Selon le commentaire de Deutéronome 24, 19 à 22, pour une raison qui paraît être théologique, si chaque propriétaire est exhorté à user ainsi de libéralité, c'est parce que la richesse de la récolte ne vient pas simplement du travail, mais de Dieu et de ses largesses. Le propriétaire est ainsi convié à manifester à Dieu sa reconnaissance en prolongeant sa générosité envers ceux qui dépendent de lui. C'est un signe d'ingratitude, dit-il, de supprimer inhumainement par notre chicheté ce qui provient de sa bénédiction. Mais, s'empresse-t-il d'ajouter, il n'y a pas besoin de révélation pour entrer dans cette logique de la reconnaissance. Il sait bien, Calvin, par la lecture de Sénèque et des philosophes, que les dieux immortels, entre guillemets, versent leurs bienfaits jusque sur les impies et que les sages sont invités à suivre leur exemple autant que le permet la faiblesse humaine. Donc, même si on a recours à un argument qui paraît être théologique, c'est au Dieu des philosophes qu'on se réfère, à Sénèque et à Cicéron, et les bienfaits de Dieu sont compréhensibles par tout homme. Que retenir ici rapidement de cette approche de Calvin sur le capital et sur la propriété ? Eh bien, tout d'abord, me semble-t-il que Max Weber a sans doute raison, Max Weber qui nous sert en quelque sorte de fil rouge critique pour toutes ces leçons sur Calvin et l'économie. Le calvinisme a certainement été historiquement un facteur de développement dans son rapport à l'argent. Les disciples de Calvin savaient que pour faire la volonté de Dieu, il leur fallait servir Dieu et aimer les hommes, y compris dans des actes concrets, et d'abord avec leur argent, en fournissant des biens et des services utiles, en se comportant de manière loyale et honnête, en donnant des emplois, en restant modeste dans le succès ou sobre dans la richesse, en étant patient et persévérant et tempérant, et toutes ces vertus qu'on connaît bien. Toutes ces attitudes étaient vécues comme des manières pratiques, comme des traductions de l'exigence évangélique, une manière réaliste de rendre gloire à Dieu, et c'est certainement un des thèmes qu'on retiendra de cette éthique réformée. S'il y a une critique à avoir contre Max Weber, c'est que probablement ça n'est pas du tout pour la raison de la double prédestination que les réformés se sont comportés ainsi. S'il faut donner tort à Max Weber, c'est que Calvin n'a jamais préconisé une éthique de la bénédiction divine qui vous dirait que plus vous êtes riche, plus vous êtes béni par Dieu. Vous ne trouvez nulle trace de cela. Ça n'est pas ça du tout la motivation. La motivation, c'est comment, à travers ce que Dieu vous donne, rendre gloire à Dieu en servant les autres. beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus chrétien en quelque sorte que les différentes interprétations qui ont été données de Calvin. Cette différence d'ailleurs d'accent par rapport aux thèses de Weber n'a pas simplement un intérêt historique pour les réformer aujourd'hui. La double prédestination paraît certainement spéculative, abstraite et même probablement dénuée de sens. Tout comme l'ascèse pour l'ascèse ou l'assurance en soi lorsqu'elle nous coupe des autres. Donc, ces thèses de Weber sur la prédestination, sur l'ascèse pour l'ascèse ou sur la certitude de la confiance en soi et à la trempe d'acier des industriels protestants ne parlent sans doute pas beaucoup aux héritiers de Calvin aujourd'hui. Mais aujourd'hui comme hier, par contre, le double commandement d'amour reste au cœur de leurs préoccupations parce qu'il est au cœur de l'Évangile. Calvin n'a pas proposé une interprétation périphérique du christianisme, mais il a cherché à dire concrètement comment aimer Dieu et comment aimer son prochain comme soi-même. Deuxième remarque, pour ne pas être voleur, les chrétiens doivent, dit-il, ne pas souffrir qu'on foule les pauvres qui n'ont nul moyen de se soutenir. Est-ce que cette thèse est capitaliste? Probablement pas. Et on comprend très bien à partir d'une telle thèse comment d'autres interprètes de Calvin que Max Weber, par exemple André Bieler, qui a écrit ce livre qui vient d'être réédité sur la pensée économique et sociale de Calvin, pouvait voir en Calvin un précurseur du socialisme. C'est tout aussi anachronique de dire que Calvin est un précurseur du capitalisme comme le fait Weber que de dire que Calvin est un précurseur du socialisme. Ça n'a pas beaucoup plus de sens en tant que tel. Mais disons qu'on peut trouver chez Calvin à la fois la justification d'une certaine utilité de la richesse, Calvin n'est pas contre la richesse du moment qu'elle sert à ce pourquoi elle est créée, de même qu'on peut trouver chez Calvin un souci premier pour les pauvres. Les deux thèses se trouvent chez Calvin, et on peut dire que les deux thèses, historiquement, ont donné lieu au capitalisme comme au socialisme, même si, évidemment, on ne peut pas commettre ici d'anachronisme. Par-delà le capitalisme et le socialisme, cette citation, hein, les chrétiens, pour ne pas être voleurs, ne doivent pas souffrir qu'on foule les pauvres qui n'ont aucun moyen de se soutenir, il faut souligner ici que la matrice de l'éthique économique de Calvin est ce rapport entre, d'une part, la règle d'or, d'autre part, la charité. L'agapé demande plus de justice que la règle d'or, mais à l'inverse, l'agapé ne saurait suspendre le moment de la justice au nom de la radicalité de la compassion. Pas d'agapé sans règle d'or, pas de règle d'or sans agapé. Au mouvement ascendant de la justice vers l'amour répond en écho un mouvement descendant de l'amour vers la justice. Il y a le mouvement ascendant du décalogue vers la perfection chrétienne et il y a le mouvement descendant du décalogue vers ses dépendances politiques. Comme un philosophe contemporain, Paul Ricoeur, l'a souligné, entre la logique de la justice et celle de l'amour, il y a en quelque sorte une dialectique indépassable, chacun des deux termes s'appelant l'un l'autre, les deux termes disant des choses contraires, mais ne se contredisant jamais. Ils disent en effet des choses contraires, parce que l'amour demande plus que la justice. L'amour brise l'égalité et la réciprocité, et l'amour ne s'intéresse pas simplement à l'ami, mais à l'ennemi, à tout homme. Hein? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on, dit Jésus. Et en même temps, il n'y a pas de contradiction entre la justice et l'amour, parce que la justice est la forme que prend l'amour dans une humanité universelle. L'équité, la justice, donne à l'amour sa forme politique, juridique, sociale, par-delà les relations individuelles, et le politique prépare, par la justice, l'annonce de l'Évangile, pas simplement en garantissant un ordre de coercition, mais en habituant, en quelque sorte, les hommes à prendre compte les uns des autres. A l'inverse, l'amour met en cause toute dérive égoïste et utilitaire de la justice, sachant que la justice courra toujours le risque d'oublier celui qui pleure en silence, comme le dit Ricoeur. Ceci étant, on doit se demander ici si Calvin, d'une part, ne confond pas la justice et l'amour. Certains, effectivement, déplorent que Calvin confonde la justice et l'amour, d'autres s'en félicitent. Beaucoup pensent que Calvin dénature la justice et beaucoup pensent que Calvin dénature l'amour. Donc, je voudrais essayer de revenir sur ces questions des commentateurs de Calvin. Tout d'abord, Calvin dénature-t-il la justice? C'est ce que pensent ceux qui lui reprochent d'avoir contaminé l'équité par des éléments qui ne sont pas compréhensibles en dehors du christianisme. Calvin a beau invoquer les auteurs païens, il sélectionne bien ses citations d'auteurs païens en fonction de ce qui est convergent avec le christianisme. Et rend-il vraiment compte d'une justice humaine indépendamment de la révélation? En réalité, si on observe précisément, un peu finement, ce que dit Calvin de l'équité, on s'aperçoit qu'il a fait un énorme travail de repérage dans les auteurs anciens de la polysémie des sens de l'équité, et en particulier chez Aristote. Chez Aristote, on trouve en effet plusieurs sens de l'équité, à la fois le fait que la même règle est valable pour tous, mais aussi un principe de justice qui corrige en quelque sorte la formulation spécifique de tel ou tel article de droit, et même l'idée de générosité ou de mansuétude. Donc, on ne peut pas dire que Calvin tord les textes lorsqu'il comprend que les auteurs païens eux-mêmes ont compris en quelque sorte en quel sens l'équité devait être vue de manière large. Et je voudrais, alors, sans entrer ici dans le détail, parce que ça m'obligerait à vous faire un cours sur Aristote, ce qui n'est pas le but du jeu maintenant, mais mentionner simplement que le thème de la libéralité qui fait transition entre la justice et l'amour est un thème qui vient justement, précisément, d'Aristote. La libéralité, dit Aristote, est une partie de la justice, tellement que celui qui ne subvient pas à la nécessité de ses frères, quand il le peut, est injuste, cite Calvin en mentionnant Aristote. Pour Calvin, comme pour Aristote, la libéralité est une extension nécessaire et subordonnée de la justice, autant dire que la libéralité n'est pas une notion spécifiquement et nécessairement religieuse. C'est relativement à la justice que la libéralité est tenue comme une vertu, pour Aristote. En s'obligeant à secourir autrui, le libéral donne apparemment davantage que ce à quoi il est dû en stricte justice, mais il ne fait ainsi que viser l'égalité qui est l'âme de la justice en rétablissant la place de chacun. Dans ce sens, comme l'avait déjà souligné Thomas d'Aquin, la libéralité fait le lien entre la justice et l'amour. Calvin s'efforce ainsi, à propos du huitième commandement, de réconcilier l'humanisme et le christianisme sans émousser leurs spécificités respectives. Mais Calvin respecte-t-il vraiment l'amour? Et ne dénature-t-il pas l'amour pour le rendre compatible avec ces sources antiques. En un sens, je l'ai dit, il y a des éléments de radicalité de l'amour chez Calvin, et je vous ai mis une citation sur vos feuilles qui essaye de le dire. Christ, dit-il, dit que nous ne faisons rien pour l'honneur de Dieu quand en prêtant ou autrement faisant plaisir à quelqu'un, nous avons égard à la récompense mutuelle. Donc, Calvin, Christ met en cause la mutualité et la réciprocité. Ainsi, il met une différence entre charité et amitié charnelle. Car les hommes profanes s'aiment les uns les autres, non pas d'une affection simple, mais pour quelque attente de profit. Aussi, il advient que chacun ramène à soi l'amour de laquelle il aime les autres, comme ainsi Platon l'a fort bien considéré. Vous trouveriez la même chose chez Aristote. Calvin, de ce point de vue-là, pour respecter l'amour, va opposer la libéralité gratuite, qui est celle de Dieu, et les compréhensions humaines ou profanes de l'amour, qui sont toujours plus ou moins intéressées. Mais, néanmoins, on peut se dire que, même si parfois Calvin, comme ça, pointe vers le sublime d'une réflexion de l'amour, etc., en réalité, comme immédiatement on redescend vers la justice, c'est toujours au niveau de la justice qu'on estime l'amour, et jamais l'amour comme un acte unilatéral, prophétique. Il n'y a pas de saint chez Calvin. Le saint, ça doit être nous tous ou ça n'est personne. Et si c'est nous tous ou si ça n'est personne, eh bien, c'est que la forme concrète que doit prendre l'amour, c'est toujours la justice. Et là, certainement, c'est une limite de la pensée de Calvin, limite d'autant plus importante, et je reviendrai plus loin dans mes conclusions, que même si de temps en temps on parle de Jésus-Christ, en réalité, quand on pense la justice et quand on pense l'amour, c'est indépendamment de Jésus-Christ. C'est en référence à la loi et à la providence. Ça, certainement, on touche ici un des points les plus contestables de l'œuvre du réformateur. Il n'est pas le seul, à vrai dire. C'est que Calvin pense qu'on peut dire quelque chose de Dieu indépendamment de Jésus. Pourquoi ? Parce que le credo chrétien est construit comme ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Normalement, et la théologie du XXe siècle va beaucoup insister là-dessus, on va dire, aujourd'hui, probablement plus volontiers, qu'on ne peut rien dire de Dieu indépendamment du Christ. Au XVIe siècle, on ne pense pas comme ça. Ou la plupart des théologiens ne pensent pas comme ça. Ils essayent de penser quelque chose de Dieu, puis quelque chose du Christ. L'économie de la providence est bien marquée par, non seulement par la justice, mais aussi par quelque chose de l'amour. Il n'y a pas de contradiction en Dieu. Mais néanmoins, on peut parler de l'amour et on peut parler de la grâce indépendamment de l'œuvre de Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il n'y a pas besoin de la passion de Jésus, il n'y a pas besoin de l'œuvre de Jésus pour le comprendre. Or, si on peut dire quelque chose de Dieu indépendamment du Christ, et si on peut dire quelque chose de l'éthique indépendamment de l'éthique spécifiquement chrétienne dans l'amour révélé en Jésus-Christ, eh bien, cette éthique va évidemment donner plus de poids à la justice qu'à l'amour. Est-ce que vous comprenez ce point ? Qui est un point assez fondamentalement critique contre Calvin. Quand je vous ai présenté le plan de l'institution de la religion chrétienne, le premier livre, hein, là où Calvin va parler de la providence, il n'est pas question de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'apparaît que dans le deuxième livre. Mais est-ce qu'on peut construire toute une théologie de la providence indépendamment de la révélation en Christ? Oui.
Je vais juste demander si on peut plus voir là, l'origine de la démocratie que du socialisme,
du capitalisme ou du socialisme,
de
oui.
Cette équité, de cette universalité.
Oui.
C'est plus dans le sens de la démocratie.
Mais disons que c'est ça, si vous voulez, une chose qui est très intéressante chez Calvin, c'est que s'il fait cet effort de dire quelque chose de théologique, qui fasse le lien avec l'humanisme, parce que justement parce qu'il n'y a pas besoin du Christ, il n'y a pas besoin d'une spécificité chrétienne. Vous pouvez construire toute une théologie à partir de la providence de Dieu telle que vous la voyez dans l'ordre du monde et telle que vous la lisez chez les auteurs antiques. Donc là, si vous voulez, c'est un énorme effort du christianisme pour aller dans la direction de l'humanisme. Et ça, c'est évidemment une chose positive, parce que ça a été une contribution, si vous voulez, intellectuelle, mais aussi sociale et humaine, pour essayer de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que les hommes essayent de découvrir de meilleur par leur intelligence, leur raison, leur bon cœur et leur sentiment, et ce que Dieu veut. Mais d'un autre côté, le risque, c'est en quelque sorte d'aplatir la spécificité du christianisme sur une éthique finalement humaniste. C'est évidemment, si vous faites une éthique de la radicalité évangélique, où vous dites, moi je finalement, ce que dit la raison, ce que disent les philosophes et ce que disent les jurisconsultes, c'est du pipi de minet, et puis moi je veux construire mon éthique à travers ce que dit Jésus, vous allez construire une super éthique, mais qui n'aura pas prise sur le réel. Donc vous aurez une éthique de saint, en quelque sorte. Or, c'est pas ça que veut faire Calvin. Il veut essayer de tenir ensemble les deux. Mais parvient-il vraiment à tenir ensemble les deux? C'est difficile. Donc lui essaye de maintenir ça en tension, si vous voulez. La justice est toujours en tension vers l'amour, et l'amour est toujours en tension vers la justice, mais le risque, c'est que ça se raplatisse sur la justice, ça se rabatte sur la justice.
Et alors, comment situe-t-il le Christ par rapport à Dieu?
Le Christ, alors, mais oui, mais c'est une question qu'on peut se poser tous, en tous les cas, que doivent se poser tous les chrétiens. Les chrétiens sont en principe monothéistes. Donc en principe, c'est le même Dieu qui agit dans la Providence, qui agit dans le Christ et qui agit dans le Saint-Esprit. Le problème, c'est que les économies de Dieu dans la Providence et du Christ dans la Révélation ne sont pas les mêmes économies. Ce qu'on entend par économie, c'est que la Providence s'occupe de tous les hommes, s'occupe de la vie, s'occupe de maintenir des règles d'humanité. Le Christ, lui, choisit les élus. Il ne s'occupe pas du monde. Il ne s'occupe pas de la justice. Ou en tous les cas, si on reprend les textes que cite Calvin, qu'est-ce qui m'a fait faiseur de partage entre vous, etc. Comme dans le texte qu'on vient de lire, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? C'est pas cette justice-là qui intéresse Jésus. Mais alors comment est-ce que en Dieu et dans le Dieu unique, il peut y avoir à la fois l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, l'œuvre de l'Esprit, qui paraissent suivre des logiques en quelque sorte, sinon contradictoires, du moins différentes. Calvin, lui, essaye de dire, je ne vais pas choisir entre ces logiques, parce que ces logiques sont toutes également vraies, mais je vais essayer de montrer comment elles s'articulent dans une sorte de tension, par exemple, entre la justice et l'amour. Dans l'œuvre de la Providence, oui. Parce que, en quelque sorte, évidemment, on peut dire, vous savez, c'est une vieille combine de théologiens, ça. Parce qu'on va dire, vous savez, dans le credo, hein, dans Nicée-Constantinople, on dit « Rien de ce qui fut ne fut sans lui », etc. « Tout ce qui fut l'a été par lui, rien de ce qui fut ne fut sans lui. » Autrement dit, la parole du Dieu créateur lorsqu'il crée le monde, c'est le Christ. Mais en même temps, si on juge le Christ à partir du monde créé, c'est pas forcément tout à fait la même image que vous avez du Christ que dans la Passion. Alors comment est-ce qu'on évite à l'intérieur du christianisme d'être trithéiste, hein? Alors on va essayer de rattacher les morceaux et de dire qu'en fait tout est dans tout, mais c'est comme la Trinité. Comment est-ce que les chrétiens sont monothéistes avec une conception trinitaire? Pas si évident. Ah, Et là, de ce point de vue-là, on peut dire que Calvin essaye d'entendre vraiment l'interprétation de l'islam. Il le cite à certains moments en disant « Est-ce que vous, chrétiens, vous êtes vraiment monothéistes ?» Alors lui, il pense que oui. Sa conception de la Trinité n'a rien d'original. Il reprend les grands conciles, hein, œcuméniques, Nicée, Constantinople, etc. Mais Nicée-Constantinople, c'est... Pourquoi est-ce qu'il le reprend comme ça? Parce qu'il sait très bien que s'il touche à la moindre chose, il va être tout de suite taxé d'hérésie. Mais en même temps, il est d'un conventionnel incroyable quand il parle de ces choses-là. Il n'y a rien d'original sur la Trinité. Oui? Ben oui, mais vous voyez, le problème c'est l'ordre, effectivement. Alors, est-ce que cet ordre, il est logique? Quelle logique suit cet ordre? On peut dire que ça suit une logique en quelque sorte de développement de l'économie du salut. D'abord le Dieu créateur, puis et le Dieu révélé à Moïse, puis le Dieu révélé aux chrétiens, puis finalement la pneumatologie, l'Église. C'est une manière de voir les choses. Probablement, aujourd'hui, encore une fois, dans la théologie du XXe siècle ou du XXIe siècle, on insistera plutôt pour dire « qui me voit le Père hein. ». C'est à travers Jésus et l'œuvre de Jésus-Christ qu'on peut comprendre quelque chose de Dieu.
Mais par rapport à notre incapacité de comprendre
directement. Voilà. Mais, encore une fois, Calvin n'est pas très original là-dessus, puisqu'il reprend l'ordre du credo. Mais peut-être que c'est l'ordre du credo qui est mauvais. Et peut-être qu'il faudrait d'abord dire « Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur » et après « Je crois en Dieu le Père ». En tous les cas, il y a un problème. Si on suit la logique du credo, ça veut dire qu'on peut penser la toute-puissance de Dieu indépendamment de l'incarnation de Jésus. Et ça, probablement, c'est l'écueil dans lequel est tombé Calvin. Oui.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous avez suggéré la spécificité et la spécificité des réformés était d'être appelés par Dieu. Alors, j'avais entendu ça dans le sens qu'on est appelé par la charité, disons, par moyen de la charité de Christ. Et maintenant, pour moi, la question qui serait de se poser, c'est si, selon Calvin, on est appelé par la justice ou par la charité.
Et oui, c'est ça le problème. Appelé par Dieu, c'est vrai. Mais si vous êtes appelé par Dieu Providence, ou si vous êtes appelé par Dieu Jésus-Christ, le résultat ne sera pas tout à fait le même. Et le problème chez Calvin, c'est qu'il pense, il peut parler de la grâce, par exemple, à propos de la Providence. Mais si vous voyez dans les chapitres qui traitent de la Providence, hein, les premiers de l'Institution, chapitre 17, 18, etc., vous voyez les citations bibliques. Il y a deux ou trois citations du Nouveau Testament. Presque toutes les citations, même pour parler de la grâce, viennent de l'Ancien Testament. Autrement dit, il essaye de faire un effort qui pense être un effort méthodologiquement correct pour penser l'appel de Dieu comme appel du Père, du Créateur. Et quel est l'appel de... Vous voyez, il y a un très grand théologien du XXe siècle qui est Karl Barth. Karl Barth, en 1932, rédige une éthique. Une éthique qu'il ne va jamais vouloir publier de son vivant, parce qu'il a changé d'avis après l'avoir écrite. Et dans cette éthique de 1932, Barth fait exactement comme Calvin. Il commence par parler du commandement de Dieu, de la révélation du Christ, de l'appel de l'Esprit. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? C'est que si on pense l'appel de Dieu indépendamment de l'œuvre de Jésus-Christ, vous allez développer des choses sur ce qu'on appelle dans la théologie protestante classique les ordres de création, l'État, l'Église, la famille, la sexualité, etc., indépendamment du Christ. Et ça, chez un autre grand théologien du XXe siècle, une Suisse lui aussi qui s'appelle Émile Brunner, ça va conduire bizarrement à une justification de certaines thèses très conservatrices, de droite, voire d'extrême droite. Donc il y a un danger, si vous voulez, et c'est probablement pour cette raison-là que la théologie du XXe siècle va être très réticente ensuite à essayer de penser le commandement de Dieu indépendamment du commandement de Jésus-Christ. Cette ambiguïté-là, alors, est-ce qu'on peut en faire le grief à Calvin? J'y reviendrai en conclusion, parce que en ce moment j'ai beaucoup travaillé un texte qui est le consensus tigurinus, l'accord entre Genève et Zurich sur la Sainte Seine. Un texte très important parce que c'est lui qui est, d'une certaine manière, à l'origine de la Suisse politique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Bien, ce texte-là fait un choix complètement différent et dit on ne va rien dire que à partir de Jésus-Christ. Et bien, le résultat est beaucoup plus intéressant que ce que je vous présente là. Donc, il y avait la possibilité, même au XVIe siècle, de penser comme ça, mais ce n'est pas comme ça que Calvin a pensé pour penser. Finalement, donc ici on parle des biens, la relation à l'économie. Et on pourrait dire la même chose du rapport aux politiques, on pourrait dire la même chose de bien des aspects de l'éthique de Calvin. Donc, ça fait partie des... Ça a un grand mérite, ça fait un pont vers l'humanisme, mais ça a une grande faiblesse. C'est que finalement, ça risque d'aplatir le message du christianisme sur le message de l'humanisme. Voilà. Alors, on prend maintenant la pause, et puis après la pause, on entrera dans une autre partie, même si on reste toujours en quelque sorte, il y aura toujours un petit lien avec l'économie, mais une autre manière de penser la synthèse de l'éthique calvinienne autour de la question de la vocation. Donc, je voudrais à présent essayer de vous présenter une autre manière de voir l'éthique de Calvin. On est parti plutôt, jusqu'à présent, de principes en quelque sorte théologiques et de concepts théologiques, la loi telle qu'elle peut être comprise du côté de la loi naturelle, du côté de la révélation. On est parti de l'amour et de la justice, de concepts. Or, il y a une toute autre manière de présenter les choses qui se trouve aussi chez Calvin, qui est de partir de l'existence du sujet et en quelque sorte de la synthèse existentielle qu'il va faire dans sa propre vie des différents aspects de la révélation qu'il comprend et qu'il va être amené en quelque sorte à incarner et à vivre. Ici, on peut évidemment penser à ce que je vous disais déjà plus haut dans ce cours à propos de l'éthique des vertus. C'est en donnant une cohérence aux différents aspects de notre vie, notre intelligence, nos sentiments, nos désirs, nos actions, ou les différentes sphères dans lesquelles nous sommes engagés, comme enfants, comme père et mère, comme amis, comme citoyens, comme travailleurs, etc., et en réussissant à unifier tout ça, qu'on construit une personnalité morale ou un caractère. Et c'est bien dans cette ligne-là, dans cette tradition-là, que Calvin va s'inscrire lorsque il va essayer de montrer ce qu'est la vocation chrétienne. La vocation aura pour sens, je le cite, de mettre ferme tenue et correspondance entre les différentes parties de notre vie. Comment est-ce qu'on peut essayer d'unifier, en quelque sorte, notre vie ? Il y a toutes sortes de philosophes contemporains qui montrent que nous n'agissons pas de la même manière. Moi, je n'agis pas de la même manière dans ma famille, dans mon église, dans mon parti politique ou dans avec mes étudiants ou avec vous. Calvin prétend que si on réussit vraiment à construire une vie chrétienne, tout ce qu'on fera sera uni. Il y aura cette cohérence dans les différents aspects de notre vie. Alors, pour parler de la vocation, il faut tout d'abord... Donc, vocation, ça veut dire quoi ? L'appel. Et cet appel, c'est pas l'appel de n'importe qui, c'est l'appel de Dieu. À quoi Dieu m'appelle-t-il ? Mais ici, il faut, avant de parler de ce qu'on appelle la vocation particulière, l'appel particulier de Dieu pour ma vie, dire un mot de ce qu'on appelle en théologie la vocation générale et la vocation spéciale. Ici, encore une fois, Calvin ne fait pas preuve de grande originalité. La vocation, il la définit tout d'abord comme vous. Ce nom, dit-il, vient d'un mot qui signifie appeler. Il y a une correspondance mutuelle à Dieu qui nous appelle. Très bien. La vocation a donc sa source en Dieu, qui s'adresse aux humains. Et la vocation de Dieu est d'abord la volonté de Dieu d'entrer en relation avec les hommes et de les sauver. Déjà, l'ancienne alliance, dit-il, pointe vers l'universel, mais évidemment ça vaut encore plus dans l'alliance en Jésus-Christ, qui s'adresse à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Et la vocation générale exprime, en théologie protestante comme en théologie catholique, le fait que Dieu est le sauveur du monde. Pas le sauveur de l'Église seulement, mais le sauveur du monde. Et celui qui s'adresse au monde. Mais néanmoins, s'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et la vocation qui, dans un sens, est présentée comme vocation générale, se restreint ensuite au nombre des élus. La vocation générale n'implique pas le salut de tous. C'est la première citation que je vous ai mise. Touchant de la sentence de Christ que plusieurs sont appelés et peu d'élus, il n'y aura nulle ambiguïté s'il nous souvient de ce qui nous doit être assez liquide, assez limpide, à savoir qu'il y a double espèce de vocation, car il y a la vocation universelle, il y a encore des textes devant pour ceux qui ne les ont pas. Il y a la vocation universelle qui gît en la prédication extérieure de l'Évangile, par laquelle le Seigneur invite à soi tous les hommes, indifféremment, et il y en a une autre, spéciale, de laquelle il ne fait quasi que les fidèles participants, car quand par la lumière intérieure de son esprit, il fait que la doctrine soit enracinée en leur cœur. Ça doit vous rappeler des souvenirs de ce qu'on a vu précédemment, hein, l'idée que la grâce pour Calvin comme pour Augustin, c'est quoi? C'est d'entendre l'évangile, c'est d'y croire, et quelqu'un a une idée? De persévérer dans la foi. Entendre, croire, persévérer. Persévérer, ça ne veut pas dire simplement entendre un petit moment, mais en quelque sorte vivre tout au long de sa vie de l'évangile. Ça, pour Augustin comme pour Calvin, c'est la grâce. Autrement dit, tout est grâce. Tout vient de Dieu, tout revient à Dieu. Et même, encore dans la citation qui est mise ici, le signe que vous êtes du côté des élus, c'est qu'il fait ses fidèles participants quand par la lumière intérieure de son esprit, il fait que la doctrine soit enracinée en leur cœur. Vous vous souvenez de ces textes de Jérémie ou d'Ézéchiel, de Dieu qui inscrit sa loi dans le cœur, qui renouvelle le cœur, l'esprit qui agit en l'homme pour transformer sa volonté, son intelligence, son entendement. Donc, il faut bien comprendre que pour Calvin, la vocation est vocation générale, qu'elle est surtout vocation spéciale, et que quand elle est vocation spéciale, elle indique que tout dans la vocation est grâce. Pour que la grâce soit complète, il faut donc non seulement entendre, croire et persévérer. Et je vous l'ai mis dans la situation suivante, comme nous sommes faciles et enclins à défaillir et à nous révolter, il ne tiendrait pas à nous que notre vocation ne fût rendue inutile si Dieu ne la confirmait. Par quoi il est dit qu'il nous fait dignes quand il nous amène jusque à son but. Ça, c'est la persévérance, où Dieu, tout au long du cheminement de la vie chrétienne, va en quelque sorte agir en l'homme, pour le ou en la femme, pour le ou la conduire à sa propre finalité. Bon. Retenez ici, encore une fois, que la vocation est grâce, qu'elle est impérative, et qu'elle affirme le primat de la promesse sur l'exigence. Il n'y a pas de morale dans la vocation. La vocation n'est pas d'abord une notion morale, c'est une notion de salut où Dieu se fait proche et agit de part en part pour conduire l'homme vers sa propre finalité. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va s'apercevoir que la vocation est non seulement générale et spéciale, mais qu'elle est particulière. Particulière veut dire qu'elle ne s'adresse pas au monde, ni même à un peuple, le peuple juif, puis l'Église, mais qu'elle s'adresse à quelqu'un, à chaque fois quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui est appelée par son nom. Je te connais avant même que tu sois enfanté et j'ai inscrit ton nom sur la paume de mes mains. Donc c'est bien chacun individuellement, singulièrement, qui est appelé à avoir une relation avec Dieu et à entendre son nom de la part de Dieu qui l'appelle. Ça, c'est la vocation particulière. Jusqu'ici, rien de très extraordinaire par rapport à ce qu'enseigne l'Église catholique du temps de Calvin ou l'Église orthodoxe, ou l'ensemble des Églises chrétiennes. Là où il y a un point, peut-être un accent simplement un tout petit peu plus important, c'est que si on dit que tout est grâce, il n'y a pas de rôle des mérites de l'homme. Tout est fait par Dieu. Et si tout est fait par Dieu, Et si la vocation vient d'abord et essentiellement de l'appel de Dieu, eh bien, tous, au moins les élus, sont en position d'égalité. Si vous joignez ces deux thèses, tous sont en position d'égalité et il n'y a pas de rôle pour les mérites, alors vous devez en conclure qu'il n'y a pas de hiérarchie parmi les chrétiens, que toute vocation chrétienne se vaut. Toute vocation chrétienne est la même vocation chrétienne, c'est la même dans ce sens que c'est l'appel à entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Que vous soyez pasteur, pas pasteur, que vous soyez roi ou que vous soyez servante, c'est la même vocation. Et ici, on retrouve un des traits de la réforme, le refus de réserver la radicalité de l'engagement chrétien à une élite. Toute vie chrétienne doit être radicale, sinon elle n'est rien. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien vous êtes pour le Christ, ou bien vous êtes contre le Christ. Vous trouvez la même chose chez Ignace de Loyola, à la même époque que Calvin, dans les exercices spirituels, méditation du roi temporel, les deux étendards, vous choisissez ou bien l'étendard de Christ, ou bien l'étendard de Lucifer. Vous n'avez pas le choix. Dans quelle équipe êtes-vous? Et si vous êtes dans l'équipe du Christ, l'appel est radical. Il n'y a pas besoin d'entrer dans un couvent pour vivre la radicalité de l'Évangile. C'est là où vous êtes, tel que vous êtes appelé à la radicalité. Aucune vie n'est plus chrétienne qu'une autre, parce que toutes les vies chrétiennes sont appelées à vivre le Christ. L'appel de Dieu doit alors toucher toutes les parties de la vie. Nous avons à observer diligemment, dit Calvin, que Dieu commande à un chacun de nous, de regarder sa vocation en tous les actes de sa vie. Lorsqu'il pense à la vocation, Calvin spontanément a tout le temps un texte biblique qui lui revient en tête. Texte très fameux, 1 Corinthiens 7:20, 1er épître aux Corinthiens chapitre 7 verset 20, que chacun demeure dans la condition dans laquelle il était lorsqu'il a été appelé. Lorsqu'il a été appelé, lorsqu'il a reçu une vocation, que chacun demeure là où il était. Le texte latin dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. L'état n'est pas alors seulement une condition, mais fait référence aux états du droit romain, aux statuts, status en latin, du droit romain. Et pour le droit romain, l'état d'un homme est sa condition stable qui se traduit par des droits et des devoirs vis-à-vis de la cité. Trois types d'états sont mis en évidence par le droit romain. L'état d'homme libre ou d'esclave, l'état d'homme marié, pater familias, ou de femme ou enfant, et l'état de magistrat ou de simple citoyen. La théologie médiévale avait largement repris cette typologie des états et avait rajouté un état qui ne se trouvait pas dans le droit romain. Vous avez une idée de ce que c'est? Le clergé. L'état de perfection évangélique par rapport à l'état laïque. Calvin, évidemment, comme les autres réformateurs, va refuser cette dernière partition des États. Il n'y a pas d'État de perfection évangélique. Tous sont appelés à la perfection. Il n'en demeure pas moins qu'il va reprendre la typologie des États hérités du droit romain, en sachant que ces États ne sont pas exclusifs les uns des autres. Un même homme peut appartenir à plusieurs États. Il peut être, par exemple, libre et pater familias, ou libre, pater familias et citoyen. Mais chaque fois, l'alternative permet de situer la personne. Si on pense chaque fois dans la tradition ancienne aux États hérités du droit romain lorsqu'on lit le texte de 1 Corinthiens 7, 20, c'est parce que la suite du texte fait référence justement au couple libre-esclave. Si tu es esclave, dit Paul, reste esclave. Si tu es libre, reste libre. Que veut dire Paul ? Il veut dire, c'est indifférent. Tu n'as pas à chercher à vouloir te libérer si tu es esclave, puisque tu as trouvé la liberté dans le Christ. Continue à être esclave et vis ta foi chrétienne. Et si tu es libre, tu n'as pas à chercher à quitter ta condition d'homme libre, accepte ta condition d'homme libre et vis ta foi chrétienne. Bon. En définissant la vocation comme un état et façon de vivre, Calvin élargit néanmoins la vocation à une autre typologie que celle des États hérités du droit romain, et en particulier au métier. Les activités économiques sont complètement ignorées par le droit romain, il n'en dit rien, puisque par définition, ça compte peu, l'économie, pour le monde antique. Mais ici, Calvin reprend l'héritage de Luther. Luther qui a fait un lien très étroit entre la profession et la vocation, entre la Berufung, la vocation, et Beruf, la profession. Je vous cite ici non pas Luther, mais Max Weber qui a mis en lumière ce trait de génie, en quelque sorte, de la théologie luthérienne. La réforme a fait sortir des couvents l'ascèse chrétienne et la méthode de vie rationnelle pour les transposer dans la vie professionnelle séculière. L'idée, pour Luther, c'est que vous devez servir Dieu là où vous êtes. Et là où vous êtes, bien souvent, c'est dans votre métier. Luther aura des pages incroyables où il va dire, par exemple, « Si je suis femme de ménage, eh bien je vais servir Dieu en faisant les lits et en balayant. Si je suis magistrat, je vais servir Dieu en gouvernant et en faisant appliquer le droit. Si je suis chaudronnier, je vais servir Dieu en tapant sur mon chaudron pour faire mon chaudron. C'est là où je suis, dans le concret de ma vie. Pas dans une autre vie, pas dans une vie rêvée. Pas dans une vie où j'aurai un autre sexe, un autre âge, une autre condition, une autre nationalité. C'est comme je suis que Dieu m'appelle. Là où j'ai été appelé, c'est là où je dois demeurer. Pour Luther, dans le métier, s'entend pour la première fois une représentation religieuse, ce métier est la tâche qui m'a été donnée par Dieu. Le travail prend alors le sens d'une réponse, accepter le sort qui m'est donné. Il n'y a pas de concentration exclusive pour le travail, c'est la même chose, hein, je dois accepter. Si je suis père ou mère de famille, je dois accepter mes enfants tels qu'ils sont. Je dois accepter mon conjoint tel qu'il est. Je dois accepter mes parents tels qu'ils sont. Je dois accepter mes concitoyens tels qu'ils sont. Parce que c'est là que Dieu m'appelle. Accepter le sort qui m'est donné, c'est essentiellement ça le sens de la vocation pour Luther. Et ici, Calvin va reprendre tout d'abord cette idée en disant que non seulement lorsque Dieu m'appelle dans la réalité de ma vie, il s'adresse à moi personnellement, mais qu'en faisant cela, Dieu maintient en quelque sorte un ordre dans le monde. Si vous accentuez, disons, ce thème, hein, la vocation et le fait que l'homme accepte, que chaque individu accepte la place qui lui est assignée par Dieu, vous allez vers un modèle de société assez conservateur. Si vous êtes esclave, vous ne devez pas chercher à changer de condition. C'est la citation que je vous ai mise. Dieu connaît combien l'entendement de l'homme brûle d'inquiétude, de quelle légèreté il est porté ça et là, de quelle ambition et cupidité il est sollicité à embrasser plusieurs choses diverses tout ensemble. Pour cette raison, de peur que nous ne troublissions toutes choses par notre folie et témérité, Dieu, en distinguant ses états et manières de vivre, a ordonné à un chacun ce qu'il aurait à faire. Et afin que nul n'outrepassât légèrement ses limites, il a appelé telle manière de vivre vocation. Chacun donc doit réputer à son endroit que son état lui est comme une station assignée de Dieu, à ce qu'il ne voltige, ni circuise, qu'il ne vague, ça et là inconsidérément, tout au long de sa vie, tout le cours de sa vie. Autrement dit, si tout à coup mes enfants sont pénibles et que finalement j'aimerais mieux ne pas avoir d'enfants, je ne peux pas. Si mon conjoint ne me plaît plus et puis que j'aurais bien envie d'aller voir ailleurs, je ne peux pas. Je dois me tenir là où Dieu m'a mis. Et accepter d'une certaine manière que même si ça se passe difficilement, c'est que Dieu me demande de vivre la croix là, à cet endroit-là. Donc, pour Calvin, cette notion d'ordre, de société ordonnée, où les hommes ne vont pas voltiger ça et là, est bien liée à la vocation. L'inquiétude, ici, peut avoir deux formes pour Calvin. Elle peut être d'abord une inquiétude religieuse. Et au XVIe siècle, beaucoup de gens se demandent si, pour être fidèles à l'Évangile, ils ne devraient pas renoncer au monde. S'ils ne devraient pas vendre ce qu'ils ont pour entrer dans un couvent, ou donner ce qu'ils ont pour entrer dans un couvent. Or, si on insiste pour dire « c'est là où vous êtes que Dieu vous a appelé, que chacun demeure là où il était quand il a été appelé », c'est pour dire « il n'y a pas besoin de vendre ce que vous avez pour entrer dans un couvent pour servir Dieu ». La radicalité à laquelle Dieu vous appelle, c'est dans votre vie concrète telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas la providence ici, non. La vocation est beaucoup plus christique que ce qu'on a dit avant de la justice. C'est vraiment l'appel du Christ. L'appel du Christ est là où je suis, tel que je suis. Donc, vous voyez, alors votre question fait directement référence à la citation 6 que je vous ai mise sur vos feuilles. Christ, c'est bien Christ. Christ ne commande pas à tous indifféremment de vendre ce qu'ils ont. Il est possible que Christ demande à quelqu'un de vendre ce qu'il a pour le donner aux pauvres, comme le jeune homme riche. Mais ce n'est pas vrai de tous. Vous ne pouvez pas considérer que c'est mieux de vendre ce que vous avez pour entrer dans un couvent. Peut-être qu'il vous le demande, mais ce n'est pas sûr. En tous les cas, ce n'est pas nécessaire. Car le laboureur ferait mal, dit Calvin, lequel, ayant accoutumé de vivre de son labeur et de nourrir ses enfants, vendrait sa possession sans qu'aucune nécessité le contraignît. Son premier travail de laboureur, c'est de vivre et de nourrir sa famille, et qui n'imagine pas que Dieu lui demande de faire autre chose. C'est ça d'abord qu'il est. Il est laboureur et il a une famille et des enfants. Bon. Quand donc nous regarderons ce que le Seigneur nous a mis entre les mains, pourvu que nous, en nourrissant ici notre famille sobrement et honnêtement, nous en élargissions quelques portions aux pauvres, voilà une plus grande vertu que rien dissiper et abandonner tout. C'est plus vertueux finalement d'accepter ce que vous êtes, si vous êtes laboureur, si vous avez des enfants à nourrir, et de vivre chrétiennement dans votre condition de laboureur, en aidant les pauvres avec si vous avez un surplus, plutôt que de vouloir renoncer à tout en vendant ce que vous avez. Imaginez qu'en posant tel ou tel choix apparemment plus radical, on pourrait se rendre Dieu plus favorable, ou même être en paix avec soi-même, est superstitieux, dit Calvin. Pourquoi ? Parce que cela repose sur une fausse image de Dieu. Dieu ne me demande pas cela. Dieu n'aime pas le sacrifice. Aucune activité n'est impropre à le servir. Seul compte la manière de la vivre. On retrouve ici la polémique des réformateurs contre les moines, que Calvin accuse d'une affection folle et d'une folle cupidité de s'imiter les uns les autres. La cupidité ne désigne pas ici l'appât du gain, mais un désir désordonné qui se trompe de cible. Répondre à l'appel divin ne consiste pas à se retirer du monde, mais dans la situation de chacun, à réformer sa manière de vivre. De ce point de vue-là, il y a une très grande différence entre Calvin et saint Ignace de Loyola, qui lui va dire que c'est mieux d'être célibataire que d'être marié, que c'est mieux d'être pauvre que d'être riche, que c'est mieux d'entrer dans un couvent plutôt que de rester dans le monde. Ici, c'est pas mieux, parce que ce qui compte, c'est votre manière de vivre là où vous êtes, dans le concret de votre vie. Mais l'inquiétude n'est pas religieuse seulement, elle peut être aussi existentielle lorsque le fidèle cherche à changer de vocation dès que la difficulté se présente. La vocation, dit Calvin, doit nous servir de bride pour nous arrêter sous le joug de Dieu, encore que nous ne trouvions pas plaisante notre vocation. Accepter sa vocation, c'est aussi accepter sa finitude et ses limites. En sachant que cette condition finie n'est pas ce qui nous empêche de vivre, mais que c'est la condition pour construire notre identité. La vocation nous donne alors, dit Calvin, une règle certaine qui ne nous laisse pas errer ça et là, ou égarer, mais instituer notre vie. S'il n'y a pas d'autre chemin que le chemin emprunté par Jésus, la vocation croisera nécessairement l'opposition des autres, la souffrance, la maladie, la mort. La vocation sera alors le lieu d'apprentissage de notre existence chrétienne, avec les vertus, la patience, la tempérance, etc. Et l'ordre, tel qu'il découle de l'Écriture, consiste d'une part à aimer la justice plus que nous le faisons naturellement, et d'autre part à nous donner certaines règles pour ne pas errer et nous laisser égarer ça et là. À cet argument, Calvin enjoint un second. La façon dont le croyant vivra dans sa famille, dans son travail, dans la gestion de ses biens, dans ses engagements politiques, fait partie de cet ordre plus général que veut la Providence. Et là, nous retrouvons ici la Providence. Vous voyez, on est toujours dans cette tension entre la Christologie et la Providence. Parce que, dit-il, la Providence cherche à assurer la paix de tous les hommes, et pour assurer la paix, il n'y a pas de meilleure manière que de limiter leur convoitise. Saint Paul admoneste, vous avez ça sur vos feuilles, Saint Paul admoneste diligemment que les dons de l'esprit sont distribués en diverses sortes et que Dieu distribue à chacun sa charge et son état, afin que nul ne s'ingère trop convoiteusement ou entreprenne la charge d'autrui, mais que plutôt chacun se contienne dedans les limites de sa vocation. Si cette modestie ne règne pas, il est nécessaire que tout soit mêlé et brouillé ensemble, car la vérité de Dieu sera déchirée par folle témérité de plusieurs, la paix et concorde sera troublée, bref, il n'y aura nul ordre qui demeure sauf ni entier. Donc vous voyez, en même temps au niveau personnel et au niveau social, la vocation marque des limites et enjoint au fond les chrétiens à accepter ce qu'ils sont tels qu'ils sont. Et là on trouve un premier paradoxe. C'est qu'en même temps, j'ai commencé par ça, la vocation est de part en part marquée par la grâce, et de l'autre, la vocation sera de part en part marquée par l'effort. L'effort d'accepter ses limites. L'effort de se tenir à ce qu'on est. On retrouve, je l'ai dit, les vertus. Et voilà ce que dit Max Weber. Et je pense qu'il a tout à fait raison là, ici, dans cette analyse qu'il fait de Calvin. Les vertus conquises par le travail ascétique, mais on pourrait dire la même chose dans l'ordre de la famille ou dans l'ordre politique, les vertus conquises par le travail ascétique sont le contrôle de soi, la tempérance, la discipline, l'aptitude à la concentration de la pensée ou le perfectionnement de soi. Et il poursuit, l'ascèse puritaine a travaillé à rendre l'homme capable d'affirmer et de faire valoir, face aux affects, ses motivations constantes. Elle a donc travaillé à l'éduquer à devenir une personnalité. Être capable de mener une vie éveillée, consciente et limpide, tel était, contrairement à certaines idées populaires, le but de l'ascèse. Détruire l'ingénuité d'une jouissance instinctive de la vie, telle était la tâche la plus urgente, mettre de l'ordre dans la conduite de sa vie, dans la conduite de la vie de ceux qui y adhéraient, tel était son moyen principal. Vous voyez, et là Max Weber a certainement raison, la notion d'ordre est absolument déterminante dans cette première compréhension de la vocation. À dire vrai, le paradoxe que je soulignais entre la grâce et l'effort est le même paradoxe que celui que nous avons vu dans l'Alliance, puisque dans l'Alliance, Dieu donne tout, mais Dieu donne tout pour que l'homme, ensuite, par sa volonté, par sa discipline, se sanctifie lui-même. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'il n'y a rien de très original ici, parce que ça s'inscrit tout à fait dans la théologie de Calvin, où il n'y a pas d'opposition entre, vous vous souvenez, ce texte magnifique, je trouve que c'est un des plus beaux textes de Calvin, où il dit il faut qu'il y ait symétrie et consensus, mélodie et accord entre notre volonté et la volonté divine. Donc, si tout est convergent, je ferai un effort qui correspondra tout simplement à ce que Dieu fait en moi. Donc il n'y a pas d'opposition entre la grâce et l'effort de l'homme. Je laisse tomber la citation suivante. pour vous en donner une beaucoup plus courte, afin donc de ne pas renoncer au droit de notre adoption. L'adoption, elle est gratuite. Hein? Nous sommes gratuitement adoptés par Dieu pour ses enfants. Et afin donc de ne pas renoncer au droit de notre adoption, il nous faut nous efforcer de tendre où notre vocation nous mène. Si vous lisez un peu superficiellement, vous direz, il y a complètement contradiction. Pourquoi est-ce qu'il faut s'efforcer de tendre alors que l'adoption est donnée gratuitement? C'est pas toujours facile, mais tout est donné, donc tout est donné. Si vous êtes adopté par Dieu pour son enfant, vous n'avez rien à faire. Donc tout est donné, mais en même temps, tout reste à accomplir à travers cette tension là où la vocation nous mène, dit Calvin. Le croyant doit ratifier l'adoption, le croyant doit glorifier Dieu en vivant bien, le croyant doit tenir le droit chemin en s'acquittant dûment de son office. Tout ça, ce sont des citations de Calvin. La vocation se tient ainsi sur une ligne de crête. D'un côté, elle est entièrement subordonnée à Dieu et à sa grâce. De l'autre, elle demande à l'homme de mobiliser tout son effort, toute son énergie, pour transformer sa vie par reconnaissance. Et transformer sa vie, non pas en changeant de vie, non pas en étant dans un autre métier, une autre famille, un autre conjoint, des autres enfants, etc., un autre pays, mais en étant là où Dieu m'a placé. Autrement dit, c'est l'ensemble de ma vie telle qu'elle est qui doit être réveillé, réformé, formé, transformé, tous ces termes que Calvin utilise comme des synonymes. Non seulement Dieu soutient ceux qui cheminent en leur voie, c'est-à-dire en leur vocation, mais Calvin va beaucoup plus loin encore, et là ça vous fera frémir, vous qui êtes des adeptes du sola gratia, sa libéralité est censée augmenter de plus en plus qu'il progresse. Plus vous allez sur le chemin de la sainteté, plus Dieu va vous aider à aller sur le chemin de la sainteté. D'où la formule paradoxale pour la théologie protestante, que seuls ceux qui cheminent en leur vocation reçoivent l'aide de Dieu. Bizarre de dire ça comme ça, mais c'est bien comme ça qu'il le dit. Faut-il suspecter ici un retour à la théologie des œuvres? Non, dit Calvin, pas du tout, parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, tout est grâce, y compris la persévérance. Si Dieu vous donne de persévérer, c'est lui qui le donne. Et il se récompense lui-même, parce qu'à travers vous, c'est lui qui le récompense. Et si vous avez de la volonté, c'est que Dieu vous a donné de la volonté, et pas vous-même. La vocation est donc appel à la sainteté et légitime toute vocation dont Dieu est l'auteur et qu'il approuve. La vocation n'est donc pas simplement la consécration d'un état de fait comme chez Luther, où il s'agissait simplement de rester là où vous étiez, mais il s'agit, pour Calvin, de trouver sa vocation, c'est-à-dire de trouver la manière correcte de vivre là où on est. Mais si vous devez trouver la manière correcte de vivre là où vous êtes, ça va laisser un écart qui est absolument absent chez Luther et qui va faire qu'en réalité, vous allez choisir votre vocation. Et là, on va toucher un autre paradoxe de la théologie réformée, parce que vous l'avez dit vous-même d'emblée, la vocation est l'appel de Dieu, mais pour la théologie réformée, vous allez choisir l'appel de Dieu. C'est avec votre liberté que vous, et des critères qu'on va essayer de définir, que l'être humain va choisir ce à quoi Dieu l'appelle. Et une fois qu'on aura vérifié que ce choix est fait correctement, on pourra dire, le choix que vous avez fait n'est pas simplement votre choix, mais le choix que vous avez fait correspond à l'appel de Dieu pour vous. Calvin, d'ailleurs, dit la même chose à propos du mariage. Je choisis mon conjoint, mais en même temps, c'est mon conjoint qui me choisit. Bon. Donc, pour Luther, la vocation consiste à vivre dans la relation à Dieu et à accueillir le Christ et l'Esprit Saint qui vont couler à travers soi. Pour Calvin, c'est pas ça. Pour Calvin, c'est bien à travers la mobilisation de la volonté, mais aussi à travers l'idée que vous allez devoir choisir, en quelque sorte, la manière de comprendre et d'interpréter ce que Dieu attend de vous. Il faut vous transformer pour manifester la sainteté divine. Et sur ce point, Calvin est très clair. La vocation n'est pas simplement consécration d'un état de fait. Pour Luther, si vous étiez esclave, ce n'était pas grave, puisque finalement vous aviez la vie au ciel avec le Christ. Donc restez esclave. Calvin ne sera pas du tout de cet avis-là. Si vous avez l'occasion de vous libérer de l'esclavage, ce sera mieux. Donc, pour Calvin, l'idée n'est pas simplement de consacrer un état de fait. Pourquoi ? Parce que si la vocation était simplement la consécration d'un état de fait, cela reviendrait à confondre la providence et le destin. Inch'Allah. C'est pas du tout Inch'Allah. C'est pas du tout l'état de fait qui lui-même rend compte de la volonté de Dieu. Le critère ici, c'est quoi? Le premier critère. Vous qui maintenant êtes des pros. Non. Non. Le premier critère de vérité de la vocation, c'est évidemment la loi. La loi, au sens où coupé de la vocation, coupé de l'expression de la volonté divine, la vocation n'est qu'apparente. Il pourra se faire, dit Calvin, quelquefois quelques actes qui paraîtront louables en apparence extérieure, mais ils ne seront pas acceptés au trône de Dieu, quelle qu'estime qu'en aient les hommes, et une vocation qui n'est pas conforme à la loi finira toujours, dit-il, par paraître méchante et vicieuse. Donc, si on veut savoir si une vocation est conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement l'état de fait pour regarder ce que Dieu veut à travers sa loi. Hein? Par exemple, vous allez vous demander, est-ce que Dieu permet l'esclavage? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Dieu? Ben, c'est compliqué. Alors là, vous n'aurez pas de réponse simple dans la loi de Dieu. Mais par exemple, est-ce que Dieu... Imaginez, voilà l'exemple que donne Calvin. Imaginez une famille, et il y en a encore beaucoup au XVIe siècle, très pauvre, qui a 15 enfants. Est-ce qu'il leur est permis de pratiquer l'infanticide? Ben... Et l'infanticide explicitement condamné par la loi de Dieu. Pour beaucoup de gens au XVIe siècle, hein, la régulation des naissances se fait par l'infanticide. Calvin estime que même si vous êtes très pauvre, même si apparemment toutes les circonstances devraient vous pousser à tuer vos enfants, vous ne devez pas le faire parce que c'est contraire à l'expression de la volonté de Dieu. Oui. Oui, c'est vrai, on pourrait raisonner comme ça, mais dit Calvin, on ne peut pas, parce que, lisez, la brebis perdue par rapport au 99. Et le 15e enfant sera la brebis perdue. Alors voilà l'exemple qu'il donne. Hein. Nous voyons, vous avez ça sur vos feuilles, nous voyons que Dieu a mis par inspiration secrète aux bêtes brutes, hein, aux animaux, voire sauvage, Hein, les bêtes brutes, ça pourrait être un bœuf ou un mouton, ou une poule. L'animal sauvage, c'est encore pire. Un tel soin de nourrir et garder leurs anges, leurs petits anges, leurs petits bébés, que la mère méprisera la vie pour sauver ses petits. Hein, vous voyez, un canard ou une canne est prête à se laisser égorger pour sauver ses petits canetons. C'est donc une lâcheté trop vilaine que les hommes, étant créés à l'image de Dieu, soient poussés de crainte. Ils sont poussés de crainte, les hommes. Ils ne le font pas. Ils ne pratiquent pas l'infanticide parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais parce qu'ils ont peur. Soient poussés de crainte à telle inhumanité qu'ils abandonnent leurs enfants qui leur sont commis à garde. Ceux qui prétendent qu'il n'y a nul eu meilleur moyen, les choses étant ainsi désespérées, que de s'appuyer sur la providence de Dieu, disent quelque chose mais non pas le tout, c'est le principal allègement qu'aient les fidèles de rejeter leur sollicitude au giron de Dieu, voire moyennant que cependant ils exécutent ce qui leur est commandé, et qu'ils ne passent pas les bornes de leur vocation, et qu'ils ne se fourvoient du chemin que Dieu leur propose. Donc, premier critère de la vocation, est-ce que Dieu m'appelle à tuer mon enfant ou pas ? La volonté de Dieu, telle qu'elle est exprimée dans sa loi. Alors, ici, il me reste 2 minutes, je voudrais, pour conclure ce cours, insister sur le fait que Calvin achève le livre 3 d'Institution chrétienne, donc avant le chapitre, le livre sur l'État et sur l'Église, par un développement sur la vocation. Et Calvin donne ainsi le fin mot non seulement de ce que doit être la vie, mais la vie chrétienne. La vocation, dit-il, est le principe et fondement de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a quelques-uns parmi vous qui connaissent un tout petit peu Ignace de Loyola ? Oui ? Eh bien, Ignace de Loyola, au début des exercices, dit, il utilise la même formule et dit, le principe et fondement de la vie chrétienne est, dit Ignace, de louer et servir Dieu et par là sauver son âme. Est-ce que Calvin pourrait reprendre cette formule ? Alors, il y a de nombreux parallèles entre Ignace et Calvin, mais à votre avis ? Voilà, alors, essayez de développer. C'est pas pour sauver son âme que l'homme le fait, puisqu'il est sauvé. Donc, le principe et fondement, c'est bien de louer et servir Dieu, ce sera le sens de la vocation aussi pour Calvin, mais par reconnaissance. Par reconnaissance. Puisque tout a été donné dans le Christ, en réponse, je dois offrir ma vie en sacrifice vivant et saint et agréable à Dieu, pour, par reconnaissance, louer et servir Dieu. Et ce sera bien le principe et fondement de la vie chrétienne. Même sérieuse, l'éthique est ainsi débarrassée de toute prétention vis-à-vis de Dieu. Tout ce que l'homme peut faire est toujours simplement réponse à l'appel entendu. Il n'empêche que comme chez Ignace, louer et servir Dieu va prendre un tour radical comme discipline de la croix. Je vous parlais tout à l'heure des 2 étendards chez Ignace. Vous avez aussi l'appel du roi temporel, l'appel du Christ. Vous avez toutes sortes de... si vous faites les exercices, il y a une grâce que vous demandez à chaque prière, c'est d'aimer, de connaître et d'aimer Jésus davantage pour mieux l'aimer et le suivre. De connaître Jésus davantage pour mieux l'aimer et le suivre. Mais vous trouvez exactement la même chose chez Calvin. Si vous acceptez que le principe et fondement de votre vie, c'est de louer et servir Dieu, la grâce que vous demanderez à Dieu, c'est de mieux le connaître pour mieux l'aimer et pour mieux le suivre, Christ étant donné, dit Calvin, en exemple d'innocence dont l'image doit être représentée en notre vie. La vocation n'a pas d'autre sens que d'enjoindre les chrétiens à devenir ce qu'ils sont, être à l'image de Dieu dans le Christ. C'est pourquoi le sens même de la vocation, je finirai là-dessus, se trouve dans ce que Calvin appelle la discipline de la croix. Et je vous ai mis cette citation. Encore faut-il que l'affection de l'homme fidèle monte plus haut, à savoir là où Christ appelle tous les siens, c'est que chacun porte sa croix. Car tous ceux que le Seigneur a adoptés et reçus en la compagnie de ses enfants se doivent préparer à une vie dure, laborieuse, pleine de travail et d'infinis genres de maux. C'est le bon plaisir du Père Céleste d'exercer ainsi ses serviteurs afin de les expérimenter. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et nous verrons ce que ça signifie pour le travail.